Épilogue. Chapitre 17. La mémoire des ailes. Nous savons où nous allons, nous connaissons notre but. Pourquoi nous épuiser à nager si vite et si longtemps dans la journée? Le mince ménestrel vert, tout flasque au cœur du nœud, n'avait même plus la force de répondre à l'étreinte des autres serpents. Et il s'en remettait à eux pour le retenir, ondulant dans le courant comme une algue. Shriver eut pitié de lui. Elle enroula un anneau autour de son corps frêle et l'enserra fermement. « Je crois, trompeta-t-elle doucement, que Molki nous pousse ainsi parce qu'il craint que nos souvenirs ne s'effacent à nouveau. » Nous devons atteindre au but avant d'avoir perdu notre détermination, avant d'oublier où nous allons et pourquoi nous y allons.
Il y a autre chose, ajouta Cessurea.
Lui aussi paraissait là, mais sa voix avait des inflexions joyeuses. Il était si satisfait de connaître la réponse.
Les saisons changent. Nous sommes plus près de la fin de l'été que du début. Nous devrions déjà être là-bas à l'heure qu'il est.
Nous devrions même être déjà enfouis dans le limon et dans les souvenirs, cuits par le soleil pendant que nous accomplissons notre mue, ajouta Kélaro.
Nos cocons doivent être durs et solides avant que viennent les pluies et le froid de l'hiver. Autrement, nous risquons de périr avant d'avoir achevé notre métamorphose, leur rappela Silic le Rouge.
Les autres serpents du nœud joignirent leurs voix en se parlant tout bas les uns aux autres.
Il faut que l'eau soit encore chaude pour que les fils se forment correctement.
Le soleil et la chaleur sont nécessaires au durcissement de la coquille. Elles doivent cuire solides et fermes avant que ne s'amorce le changement.
Molkin ouvrit ses yeux immenses. Ses ocelles d'or miroitèrent de plaisir.
Dormez et reposez-vous, mes petits, leur dit-il d'une voix caressante,
méconnaissant le fait que certains serpents étaient beaucoup plus grands que lui et que nombre d'autres l'égalaient en taille.
Faites de beaux rêves et consolez-vous en songeant à tout ce que nous savons. Parlez-en entre vous. Partagez les souvenirs que Dracius nous a donnés, nous aidera à les conserver.
Ils acquiescèrent en trompetant doucement, s'enroulèrent et se fixèrent les uns aux autres.
Le nœud avait grandi.
À la suite du sacrifice de Dracius, nombre de serpents sauvages avaient manifesté les signes d'un retour de mémoire. Certains restaient muets. Néanmoins, par intermittence, l'intelligence éclairait leurs yeux et ils se conduisaient comme s'ils faisaient véritablement partie du nœud, en allant même jusqu'à se joindre aux autres au moment du repos. Il était réconfortant d'être en plus grand nombre. Quand ils rencontraient d'autres serpents à présent, ceux-ci les évitaient, ou bien ils les suivaient et devenaient petit à petit partie intégrante du nœud. Molkin leur avait confié son espoir. Lorsqu'ils auraient remonté le fleuve et auraient atteint le lieu de nidification, jusqu'aux plus sauvages d'entre eux pourraient sentir vibrer des souvenirs.
Shriver voila ses yeux et se plongea dans les rêves. Encore un autre plaisir qu'elle retrouvait. En songe, elle volait à nouveau, comme ses ancêtres. En songe, elle s'était déjà transformée en beau dragon jouissant de la liberté des trois règnes.
Mais ne vous fiez pas trop à ces souvenirs, ajouta brusquement Molkin.
Il ne s'exprima pas à voix forte. Seul Shriver, Cessurea et quelques autres proches de lui ouvrirent les yeux à sa voix.
« Que veux-tu dire ? »
demanda Cessurea, saisi d'effroi.
« N'avait-il donc pas assez souffert ? Maintenant, il se souvenait.
Qu'est-ce qui pouvait les empêcher d'atteindre leur but ?
Rien n'est tout à fait comme il faudrait, dit Moulkine à mi-voix. Rien n'est comme jadis, rien n'est exactement comme cela devrait être. Il faut nager vite et bien, se donner le temps de surmonter les obstacles que nous rencontrerons en chemin. N'en doutez point, il y aura des obstacles.
Que veux-tu dire ? Répéta Cécuréa plaintivement. Mais Shriver pensa qu'elle le savait déjà. Elle garda le silence et écouta la réponse du prophète.
« Regardez autour de vous !» leur enjoignit-il. « Que voyez-vous ? »
Cécuréa répondit pour eux tous. « Je vois le plein. Je vois les vestiges d'anciennes constructions écroulées au fond de la mer. » Je vois l'arche de Rhitos au loin.
Et l'arche de Rhitos n'est-elle pas dans vos souvenirs un endroit agréable où se percher après un après-midi de vol au-dessus du Manque? Ne se dressait-elle pas, haute et orgueilleuse, à l'entrée du port de Rhitos? Pourquoi est-elle éparpillée, brisée, englouti par le plein.
Personne ne souffla mot. Tous attendaient sa réponse.
« Je ne le sais pas non plus !»
gronda doucement Moulkine quand le silence se prolongea.
« Pourtant, je soupçonne que c'est cela qui nous a longtemps déroutés. C'est pourquoi ces choses nous paraissaient vaguement familières. C'est pourquoi nous pouvions presque nous rappeler le chemin sans vraiment le reconnaître.
Est-ce seulement de notre faute ?
Demanda Conteur.
Shriver croyait le fluet ménestrel endormi. Dans sa voix lasse, perçait l'indignation.
Les souvenirs que Drakeius nous a légués nous disent que nous devrions chercher des serpents qui se souviennent, ceux dont les souvenirs sont restés purs et vifs. Non seulement ceux-là, mais aussi les guides qui sont censés nous aider. Où sont les dragons qui auraient dû monter la garde à l'embouchure du fleuve pour nous protéger quand nous pullulons? Pourquoi n'avons-nous rien vu de la génération qui nous a précédés?
La voix de Moulkine s'adoucit, empreinte de compassion.
Tu n'as pas compris, conteur. Drakeius nous a raconté ce qu'il leur était advenu. Certains ont péri dans la pluie de fumée et de cendres. Les rares qui ont eu la chance de survivre ont été massacrés. On leur a dérobé leur mémoire. Ce sont les argentés qu'il nous est arrivé de rencontrer. Pour nous, ils ont l'odeur de ceux qui se souviennent parce qu'à une époque, c'était eux. Il ne subsiste d'eux que leurs souvenirs volés.
Durant un moment, tout fut silence. Lentement, Shriver prit conscience de l'angoissante réalité. Ce nœud, c'était tout ce qui restait. Il fallait qu'ils survivent par leurs propres moyens si leur espèce devait se perpétuer. Il fallait qu'ils découvrent par eux-mêmes le fleuve qui menait au lieu de nidification. Il fallait empêcher les prédateurs d'infester les eaux. D'une façon ou d'une autre, ils devaient se fabriquer leur propre cocon, sans le tendre secours des dragons adultes. Et une fois enfermés, impuissants, ils devraient s'en remettre à la chance pour passer l'hiver. Il n'y aurait pas de dragons pour les surveiller.
Son regard alla de serpent en serpent. Combien d'entre eux seraient-ils à déployer leurs ailes de dragon au printemps prochain? Seraient-ils suffisamment nombreux pour se choisir des compagnons le moment venu? Combien en réchapperaient pour veiller sur les nids jusqu'à l'éclosion des œufs? Quand les jeunes se tortilleraient sur la plage pour rejoindre la mer et commencer leur premier cycle de migration et de nourriture, il n'y aurait pas d'adultes pour leur enseigner les règles du plein. Les chances de survie de sa race lui apparurent soudain infimes. Si elle vivait assez longtemps pour devenir dragon, Elle aurait à affronter une longue, très longue existence où elle verrait dragons et serpents de mer disparaître des trois règnes. Comment le supporter ?
« Ils nous appartiennent !»
déclara brusquement Conteur.
« Quoi donc ?»
demanda Shriver d'une voix distante.
« L'avenir, songea-t-elle. Les lendemains nous appartiennent, mais plus maintenant. Les souvenirs conservés dans les argentés, ils sont nôtres et les posséder nous rend plus forts. »
Il se dégagea soudain du nœud d'un violent coup de queue.
« Nous devrions les reprendre !»«
Conteur !»
Molkin se détacha doucement des autres. Il passa sur le flanc du petit serpent sans le provoquer.
« Nous n'avons pas le temps de nous venger !»«
Il ne s'agit pas de vengeance. Je parle de reprendre ce qui nous appartient de droit, ce qui nous est plus essentiel que la nourriture. Les souvenirs étaient partagés entre nous. Ce qu'un seul aurait dû posséder était divisé entre beaucoup d'autres. » Cependant, nous sommes devenus plus sages. Chacun a partagé ce qui était appris. Ne profiterait-on pas davantage si l'on disposait d'une plus grande part de souvenirs? Nous devrions les rechercher et reprendre ce qui est à nous.
Plus rapide qu'un banc de harengs qui vire de bord, Molkin l'enveloppa. Il s'était glissé jusqu'au petit ménestrel avec tant d'aisance et de calme que Conteur ne l'avait pas vu venir. Les yeux dorés de Molkin tournèrent autour du manteau vert de Conteur et son énorme tête se tordit pour faire face au serpent fluet. Molkin ouvrit toute grande ses mâchoires et souffla un fin brouillard de toxines sur le ménestrel. Dominé, le petit serpent se tranquillisa dans ses anneaux. Les yeux de Conteur tournèrent et plongèrent dans des rêves indolents.
« Nous n'en avons pas le temps !»
affirma Molkin à mi-voix alors qu'il ramenait son compagnon amolli vers le nœud.
« Si l'occasion se présente de prendre un autre argenté, nous la saisirons. Cela, je vous le promets. Mais nous ne pouvons pas retarder notre migration pour les chercher. Repose-toi bien, nœud de Molkin, car demain, nous repartons.
Demain,
songea Shriver, alors que le nœud se tordait, se levait et s'ancrait à nouveau. Il y a encore un lendemain qui nous appartient. Elle baissa les paupières et se laissa emporter dans un songe d'elle. Elle était infirme. Elle ne pourrait jamais nager aussi facilement qu'un dragon caracolait sur un courant d'air ascendant. Elle était restée trop longtemps confinée. Elle avait été trop peu nourrie. Elle ne pouvait redresser son corps de toute sa longueur, rabougri comme il était. Il était lourd et épais là où il aurait dû être mince et musclé. Peut-être était-ce irrémédiable. Peut-être était-ce désespéré. Mais, sans doute aucun, elle était libre. Et sans doute aucun, sans regret aucun, elle avait massacré les abominations qui l'avaient emprisonnée. Jamais plus il ne tourmenterait un jeune serpent comme il l'avait tourmenté, elle. Elle aurait voulu continuer à les tuer, encore et toujours, sans fin, et savourer éternellement son acte. Elle reconnut dans ce désir une autre de ces difformités qu'il lui avait infligées. Elle essaya de bannir cette pensée. Elle avait vu les petits deux pattes hissés dans un canot. Elle les avait suivis pour les protéger jusqu'à ce que le bateau soit pris par un plus grand. L'odeur du navire l'avait troublée. Une odeur de serpent, et pourtant, il n'en était pas un. En outre, il avait l'odeur de celle qui se souvient, et pourtant c'était une chose muette qui ne lui répondait pas. Elle ne voulait pas réfléchir là-dessus. Les réponses pouvaient être scellées dans le savoir du garçon qu'il avait partagé si brièvement. Elle songea à prendre le temps de suivre le navire pour découvrir toutes ces choses. Mais une nécessité plus urgente l'appelait. Après toutes ces saisons de captivité, le sort l'avait délivrée. Elle était destinée à être le guide de sa race. Pourtant, elle était là, encore proche de la plage où elle avait éclos. Elle n'avait pas migré avec eux. Elle ne s'était pas nourrie avec eux. Elle n'avait pas grandi en taille comme elle aurait dû. Pourtant, aussi tordue et chétive qu'elle soit, elle conservait l'essentiel. Dans ses glandes et ses toxines résidait l'antique savoir de sa race. Il fallait le partager avec eux avant qu'ils ne remontent en foule le fleuve pour commencer leur mue. En bondissant, en se tordant dans l'eau, elle doutait d'être capable d'accomplir ce pénible voyage. Pourtant, elle devait partir à la recherche des autres et partager avec eux les souvenirs engrangés. Elle remonta brièvement dans le manque, goûtant le vent libre et salin. Sur le pont du vaisseau argenté, des hommes criaient en l'apercevant. Elle plongea vivement et prit sa décision. Le navire argenté devait retourner vers les îles. Au-delà des îles, la terre, et dans la terre se trouvait l'embouchure du fleuve qui conduisait au lieu de nidification. C'était sa destination. Elle resterait aux côtés du vaisseau d'argent aussi longtemps qu'ils iraient dans la même direction. Peut-être y avait-il là quelque chose à apprendre. En outre, elle était intriguée par les petits animaux pensants sur le navire. Elle les étudierait. Quand enfin elle rejoindrait les survivants de sa race, elle aussi aurait des souvenirs personnels à partager. Que sa vie confinait leur cerveau moins à cela. Celle qui se souvient s'abîma et essaya d'étirer ses muscles atrophiés. Alors qu'elle remontait à fleur d'eau, elle découvrit que le sillage du navire l'entraînait. Elle s'y installa et reprit le fil de son destin.
Vous venez d'écouter Les Aventuriers de la Mer, tome 6, L'éveil des eaux dormantes, de Robin Hobb, traduit de l'anglais par Véronique David-Marescot, lu par Vincent Deboire.